Manuscrit 27. Conseil sur certains aspects de notre œuvre médicale. Un travail particulier. Le Seigneur m'a accordé une lumière spéciale concernant l'établissement d'une institution de réforme sanitaire où on pourrait prendre soin du malade de manière complètement différente de celle qui existe dans les institutions du monde. Elle doit être réalisée en se fondant sur les principes bibliques et être l'instrument de Dieu, non pas pour guérir avec des médicaments, mais en utilisant les remèdes de la nature. Ceux qui sont en relation avec cette institution doivent être éduqués dans les principes rétablissant la santé. La gestion doit en être différente. Nous n'avons jamais proposé d'établir de sanatorium au fonctionnement similaire à celui des autres institutions. Si nous n'avons pas de sanatorium qui, sous beaucoup d'aspects, soit totalement différent des autres institutions, nous n'aurons alors rien gagné. Établi pour éduquer le public. Il faut expliquer clairement les bienfaits d'une abstention de tabac et de boissons enivrantes. S'ils désirent retrouver la santé, montrez aux patients le besoin de suivre les principes de la réforme sanitaire. Que les malades sachent comment guérir en étant tempérants dans la nourriture et en faisant régulièrement de l'exercice à l'air libre. Les sanatoriums doivent être établis justement pour que les gens apprennent ces choses. Un grand travail doit être accompli. Ceux qui sont maintenant ignorants seront avertis. Grâce à l'œuvre de nos sanatoriums, la souffrance sera soulagée et la santé rétablie. Les gens doivent apprendre comment, en faisant attention à ce qu'ils mangent et boivent, ils peuvent rester en bonne santé. Le Christ est mort pour sauver les êtres humains de la ruine. Nos sanatoriums deviendront sa main droite, enseignant aux patients à vivre de manière à honorer et à glorifier Dieu. Si nos institutions ne font pas ce travail, leurs dirigeants commettront une grave erreur. Ceux qui s'abstiennent de manger de la viande leur sera à tous bénéfique. La question de l'alimentation est un sujet d'intérêt vital. Ceux qui ne dirigent pas les sanatoriums de la bonne manière perdent l'occasion d'aider correctement les personnes qui ont besoin de changer leur mode de vie. Nos sanatoriums sont établis dans un but précis. Enseigner à ne pas vivre pour manger, mais à manger pour vivre. Dans nos sanatoriums, la vérité doit être appréciée et non cachée ou bannie. La lumière doit briller en rayons clairs et distincts. Ces institutions sont les établissements du Seigneur pour un renouveau d'une moralité pure et élevée. Ne les établissons pas en vue d'une entreprise spéculative, mais afin d'aider des hommes et des femmes à suivre de bonnes habitudes de vie. Le bien-être spirituel des patients, selon laquelle leur objectif le plus élevé doit toujours être celui de s'occuper du bien-être spirituel de leurs patients. Dans ce but, ils doivent apprendre à répéter les promesses de la parole de Dieu et à élever chaque jour de ferventes prières, tandis qu'ils se préparent à servir. Qu'ils prennent conscience de devoir toujours avoir sur les patients l'influence apaisante et sanctifiante du grand médecin missionnaire. Si ceux qui souffrent peuvent sentir que le Christ est leur sauveur miséricordieux et compatissant, ils obtiendront du repos pour leur esprit, ce qui est essentiel pour recouvrer la santé. Le médecin-chef libéré de tâches mineures. Le médecin-chef de n'importe quelle institution occupe un poste difficile et devrait être libéré des tâches mineures car celles-ci ne lui laissent pas le temps de se reposer. Il ne doit pas être accaparé par des tâches qui ne lui reviennent pas, mais doit avoir une aide suffisamment fiable car son travail est difficile à accomplir. Il doit s'incliner dans la prière avec ceux qui souffrent et amener chaque patient au grand médecin. S'il supplie humblement le Seigneur pour obtenir la sagesse de s'occuper de chaque cas, sa force et son influence augmenteront dans une grande mesure. La notion de la vérité pure de Dieu au cœur et à l'esprit, il sera plus apte à réaliser des interventions cruciales où la vie et la mort du patient sont en jeu. Une religion personnelle est essentielle à tout médecin qui veut réussir dans le soin des malades. Il lui faut une puissance supérieure à sa propre intuition et à ses compétences. Dieu voudrait des médecins qui soient reliés à lui et qui sachent que chaque âme a du prix à ses yeux. Réalisant que seul celui qui a créé l'homme sait comment diriger, celui qui dépend de Dieu n'échouera pas comme thérapeute des maux corporels. Il faut un gérant. Toute institution médicale ne devrait pas dépendre principalement des médecins en tant que directeurs. Elles ont besoin d'hommes polyvalents, au jugement impartial, qui puissent planifier et exécuter. Le conseil d'administration ne doit pas faire les choses au hasard, car tout ce que nous faisons a ses conséquences. Il faut au Health Retreat, refuge de santé, un gérant, ou bien l'institution sera démoralisée. Un travail exclusif. Le poste pour lequel le docteur A a insisté fut celui de directeur ou gérant. C'est là que l'erreur fut commise. Jamais on n'aurait dû lui donner ce poste. Son temps et ses efforts, consacrés aux patients, sont tout ce qu'un médecin peut supporter. Il croyait pouvoir faire la même chose que ce que fit le docteur Kellogg au sanatorium de Battle Creek. Mais s'il accomplit son travail fidèlement en instruisant et formant les ouvriers, en s'occupant des malades et en répondant aux demandes que les malades de l'extérieur lui feront certainement, et ce qui est le devoir de tout praticien, c'est tout ce qu'il pourra accomplir. La gestion commerciale et financière ne devrait pas lui être remise, car certaines tâches qui devraient être faites seront négligées et d'autres qui se présenteront, et dont on s'occupera, auraient dû être laissées de côté. La gestion est un travail à part entière. Il faudrait trouver un gérant avisé qui supervisera tout ce qui concerne la gestion d'une entreprise. Il devrait avoir, après avoir consulté le conseil d'administration, le droit de regard sur les comptes et sur les factures présentées aux patients. Une erreur a été commise en ce sens. D'étranges décisions ont été prises à ce sujet. On n'a pas agi avec toute la sagesse requise dans ce cas, et l'institution en a subi les conséquences. Il faut une entière compréhension des dépenses et des recettes. Un comptable, qui ne soit pas un médecin, devrait être employé pour s'occuper des livres. On a besoin d'hommes d'expérience. Les salaires offerts devraient atteindre un niveau qui garantisse les meilleures prestations. On ne gagnera rien à économiser dans ce sens. Il y aura des pertes si on fait venir des hommes inexpérimentés pour administrer ou gérer les affaires de l'institution. Il aurait été judicieux qu'un homme polyvalent en gestion d'entreprise eût travaillé au Health Retreat, quelqu'un qui aurait été formé au travail extérieur et qui aurait pu répondre aux demandes. Les docteurs B et C auraient alors pu remplir leurs fonctions en tant que médecins et laisser le travail de gestion à ceux qui étaient plus aptes à réaliser ce type de travail. Ainsi, les milliers de dollars dépensés auraient pu être économisés. Les projets et plans humains, ainsi que la direction de l'institution selon leurs propres idées, ont accru la dette considérable de l'institution. Que celui qui a de l'expérience du monde des affaires, qui aime profondément Dieu et qui peut prendre le temps d'examiner les diverses suggestions des médecins pour dépenser les moyens destinés à réduire la grande dette pour laquelle l'institution est récriminée, prenne les rênes de l'institution. Que tous ceux qui ont l'ardent désir d'imiter Battle Creek, en construisant sans cesse, utilisent au maximum ce qu'ils ont déjà. Ils, le docteur Kellogg, pouvait œuvrer dans plusieurs secteurs, mais on l'a averti de ne pas prendre les responsabilités dont il s'était chargé dans le passé. Non pas par manque de compétences, mais à cause de la grandeur de la tâche, de son importance croissante, du travail délicat et de l'immensité de la responsabilité de s'occuper de l'humanité souffrante. Occuper ainsi son esprit et son temps aux aspects financiers courants est un travail lourd pour un homme déjà trop lourdement chargé. Pourtant, il n'a pas trouvé le moyen d'éviter d'élaborer des plans pour faire avancer l'œuvre, et ses conseils sont très recherchés sur des aspects dont la sagesse d'une autre personne pourrait s'occuper. La responsabilité de la gestion. Le docteur C a travaillé avec persévérance pour tout maintenir sous son contrôle. Mais il ne faut plus le laisser choisir des hommes pour occuper des postes officiels dans l'institution. Les plus jeunes n'ont été directeurs ou gérants que de nom. Il n'agrée pas au docteur C que soient nommés d'autres gérants que ceux qui travaillent sous ses ordres. Le sanatorium ne doit plus être administré ainsi. Cet état de choses fait du tort à la réputation de l'institution et il faut changer cela. Dieu ne peut pas travailler au travers d'instruments non consacrés. La responsabilité de gérer une institution établie par le Seigneur ne doit pas revenir entièrement au médecin-chef. Il ne doit pas tout contrôler, sauf dans son propre département en tant que médecin-chef. Le sanatorium a ici besoin de l'aide d'hommes qui comprendront ce qu'on attend d'eux et qui accompliront leur devoir, que cela soit ou non favorable au docteur C. Un effort de collaboration. Personne à l'expérience et à l'entendement limité ne devrait être nommé directeur. Il aurait fallu qu'il en soit ainsi depuis le début, quand, à l'arrivée du docteur B, il y aurait dû y avoir un homme ferme, fort et déterminé. Mais il ne voulait pas cela. Non, pour rien au monde. Il ne voulait aucun gérant et ne serait pas venu à moins d'être lui-même le gérant. Ce fut exactement la même chose avec le docteur A. La grande erreur fut de ne pas nommer un gérant dûment autorisé. Si elle en avait eu un, l'institution aurait joui aujourd'hui d'un bien plus grand prestige. Mais il n'en voulait pas. Il allait lui-même être le gérant. Il estimait pour cela être suffisant et équipé. Eh bien, il n'était pas là à sa place, et, étant des médecins, ce n'est ni la vôtre. Votre tâche est celle des médecins. Médecins et gérants devraient se réunir. Le gérant devrait consulter les médecins, et les médecins consulter le gérant afin d'avoir une large compréhension de la manière de faire les choses. Le médecin devrait consulter le gérant concernant les installations qu'il faut au sanatorium et, quand le médecin voit qu'il manque quelque chose ou quoi que ce soit qui ne soit pas comme il le faudrait, il doit le communiquer au gérant et avoir une parfaite compréhension, tirant la corde dans le même sens. Le médecin-chef n'est pas apte à gérer. Nous voyons ici, au sanatorium, le grand danger du médecin-chef qui pense devoir être le directeur et le gérant de tout à l'institution. Nous en voyons les résultats ici, bien que ces 20 dernières années, le Seigneur ait envoyé plusieurs messages pour corriger cette idée. L'ordre de Dieu ne consiste pas en ce qu'un seul homme ait autant de responsabilités. Dieu a un travail pour le médecin. Il doit œuvrer sous sa supervision, et en aucun cas il n'est à supposer qu'un médecin soit habilité à être directeur ou gérant et à faire de cette charge supplémentaire un succès, tout en accomplissant son travail de médecin. Un travail particulier a été assigné au gérant du sanatorium. Les médecins ont une responsabilité considérable et devraient avoir à leur côté des hommes d'expérience, des hommes de prière, dignes de la confiance qu'on a placée en eux, quelle qu'elle soit. Ils doivent être subordonnés les uns aux autres. Tout ce qui est remis en question doit être présenté au Seigneur dans la prière. Ils doivent traiter avec déférence et respect ceux que Dieu a nommés pour unir leurs efforts aux leurs, tout comme ils aimeraient qu'on les traite. Que le directeur, le médecin, le gérant et l'infirmière en chef prennent courage et réalisent le travail qui leur est assigné, car bientôt, ils n'en auront plus l'opportunité et la récompense suivra. Contre la tentation de partir et d'ouvrir un cabinet privé. Le travail du vrai médecin missionnaire est, en grande partie, un travail spirituel. Il comprend la prière et l'imposition des mains. Il doit donc être mis à part d'une manière aussi sacrée que celle du ministre de l'Évangile. Ceux qui sont choisis comme médecins missionnaires doivent être mis à part. Ceci les fortifiera contre la tentation de se retirer de leur travail au sanatorium pour ouvrir un cabinet privé. Aucun motif égoïste ne doit séparer l'ouvrier de son poste. Nous vivons une époque de responsabilité solennelle, où un travail doit être réalisé avec consécration. Recherchons le Seigneur avec diligence et intelligence. Si nous permettons au Seigneur d'agir sur les cœurs, nous verrons s'accomplir une œuvre grande et étendue. S'il y a un moment où notre œuvre doit être effectuée sous la direction spéciale de l'Esprit de Dieu, c'est bien maintenant. Que ceux qui vivent à leurs aises se réveillent. Laissons nos sanatoriums devenir ce qu'ils devraient être, des endroits où la guérison est offerte aux âmes souffrant du péché. Nous y parviendrons quand les ouvriers auront une communion vivante avec le grand médecin. Ni correct, ni juste. Ces 4 dernières années, un de nos médecins s'est établi dans la ville, non loin de notre sanatorium, pour y construire un sanatorium privé. Ceci n'était pas correct et a fait du tort à notre sanatorium où on a toujours dû lutter pour réussir et accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. La décision de celui qui a établi ce sanatorium privé n'est ni correcte ni juste. S'il continue à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, des problèmes surgiront constamment. Il prend des patients du sanatorium établis selon le plan divin. Pire encore, il leur permet de manger de la viande, alors que les ouvriers de notre sanatorium ont toujours essayé de démontrer à leurs patients qu'il valait mieux s'en abstenir. La question est de savoir quoi faire. Voici 2 institutions. L'une s'efforce de suivre les principes de la réforme sanitaire et l'autre laisse ses patients consommer de la viande, prenant ainsi des patients à la première institution. Cette question doit être traitée de manière juste et à la manière du Christ. Si celui qui s'est établi si près de l'institution de Dieu a le cœur et l'esprit convertis, il verra le besoin de mettre en pratique les principes de la parole de Dieu et se mettra en harmonie avec ses voisins. S'il ne peut pas s'unir à eux, il s'en ira. Il existe beaucoup d'endroits où il peut aller. Que nos médecins ne pensent pas qu'ils peuvent établir un cabinet privé à côté de nos sanatoriums. À ceux qui ont fait cela, le Seigneur dit « N'y a-t-il pas beaucoup d'autres endroits où vous implantez ?» Le Seigneur s'adresse à tous les médecins missionnaires. « Allez travailler dans ma vigne aujourd'hui pour sauver les âmes. » Dieu écoute les prières de tous ceux qui le cherchent vraiment. Il possède la puissance dont nous avons tous besoin. Il remplit le cœur d'amour, de joie, de paix et de sainteté. Le caractère se développe constamment. Nous ne pouvons nous permettre de nous attarder à travailler à l'encontre des plans de Dieu. Selon certains médecins, à cause d'un lien passé avec nos sanatoriums, il leur est profitable de s'installer tout près d'eux. Ils ferment les yeux aux nombreux champs oubliés ou non labourés, où un travail altruiste serait un bienfait pour beaucoup. Les médecins missionnaires peuvent exercer une influence édifiante, purifiante et sanctifiante. Ceux qui n'agissent pas ainsi abusent de leur pouvoir et font un travail que le Seigneur rejette. Notre œuvre est fondée sur l'abnégation. En vue de la grande œuvre à réaliser, nos ouvriers doivent être disposés à travailler pour un salaire raisonnable. Même s'ils peuvent gagner un salaire conséquent, ils doivent considérer l'exemple du Christ qui, en venant en notre monde, a vécu une vie d'abnégation. Actuellement, justement, les salaires exigés par les ouvriers signifient beaucoup. Si vous demandez un salaire élevé et qu'on vous l'accorde, la porte est ouverte pour que les autres fiassent d'eux-mêmes. C'est justement parce que les ouvriers de Battle Creek ont exigé d'importants salaires que l'esprit de travail a été gâché. Deux hommes en particulier ont lancé cette initiative, et trois ou quatre se sont unis à eux pour obtenir quelque chose qui, si la plupart l'avaient exigé, aurait démoli un des traits distinctifs de l'œuvre de ce message. La cause de la vérité présente a été fondée sur l'abnégation et la générosité. Cet esprit égoïste et avide est contraire à ces principes. C'est comme une lèpre mortelle qui, avec le temps, contamine tout le corps. Ceci me préoccupe. Nous devons y veiller, ou bien nous perdrons cet esprit de simplicité et d'abnégation qui caractérisait notre œuvre dans ses premières années. Il ne vous sera pas difficile d'exercer une grande influence au sanatorium. Si vous êtes prêt à agir avec abnégation, sans exiger le salaire auquel vous supposeriez naturellement avoir droit, le Seigneur vous soutiendra dans votre travail. D'un autre côté, si vous demandez une somme trop élevée, d'autres penseront avoir le même droit que vous et on dépensera ainsi ailleurs l'argent qui devrait être utilisé pour fortifier la cause de la vérité présente. En prenant d'importantes décisions, nous devrions étudier tous les aspects de la question. Il faut se rappeler constamment qu'une place nous a été donnée dans l'œuvre pour agir en instrument responsable. Certains voudront suivre les us et coutumes du monde concernant leur salaire, mais le Seigneur ne voit pas les choses comme eux. Il considère notre devoir et nos responsabilités à la lumière de l'exemple d'abnégation du Christ. L'Évangile doit être présenté au monde de manière à ce que le précepte et l'exemple soient en harmonie. Nos sanatoriums ne doivent pas être dirigés selon les coutumes du monde. Il n'est pas nécessaire que le médecin-chef reçoive un salaire élevé. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Ne pas exiger de sommes définies. Jésus lance à tous cette invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Si tous portaient le joug du Christ, si tous avaient appris à son école les leçons qu'il enseigne, il y aurait suffisamment de ressources pour établir l'œuvre missionnaire médicale en beaucoup d'endroits. Que personne ne dise je vais m'engager dans ce travail pour une certaine somme. Si je ne la perçois pas, je n'accepterai pas le poste. » Ceux qui disent cela montrent qu'ils ne portent pas le joug du Christ, qu'ils n'ont pas appris de sa douceur et de son humilité. Ce ne sont pas nos richesses en ce monde qui augmentent notre valeur aux yeux de Dieu. Dieu reconnaît et honore celui qui est humble et contrit. Lisez le chapitre 57 d'Ésaïe. Étudiez-le avec attention, car il signifie beaucoup pour le peuple de Dieu. Je ne ferai dessus aucun commentaire. Si vous l'étudiez attentivement et dans la prière, vous deviendrez sage pour le salut. Conseil sur une proposition de pourcentage. Concernant la proposition du frère, je considère la question comme vous le faites. Nous n'avons pas les moyens de débuter avec des salaires élevés. Ceci fut la grande erreur des employés de Battle Creek, et j'ai quelque chose à dire sur ce point. Nous avons devant nous un grand champ missionnaire. Nous devons être certains de tenir compte des exigences du Christ qui s'est donné lui-même pour notre monde. Rien de ce que nous pouvons faire ne devrait rester inachevé. Il doit y avoir de l'ordre et de la netteté, et tout ce qui est possible doit être fait pour montrer notre minutie sous tous les aspects. Concernant un salaire de 25$ par semaine et un pourcentage important sur les opérations chirurgicales, j'ai reçu en Australie une lumière selon laquelle cela ne doit jamais se faire, sinon notre prestige serait en jeu. Chacun de nous étant prêt à suivre l'exemple de Jésus-Christ, nous devons écouter le conseil divin. Nous ne pouvons consentir à payer d'extravagants salaires. Dieu exige de ses médecins de se conformer à cette invitation. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Les médecins comme les pasteurs appelaient à l'abnégation. Je me sens poussé à vous écrire ce matin et vous demande d'être sûr de traiter tous les hommes de manière équitable. Il m'a été montré qu'il existe un danger à ce que vous suiviez avec les médecins un plan d'action qui leur fera du tort. Nous devons tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour encourager les talents des pasteurs, ainsi que ceux des médecins en leur offrant tout avantage nécessaire. Mais il y a une limite à ne pas dépasser. Quand nous cherchions un médecin pour être directeur médical du sanatorium de Loma Linda, un médecin d'expérience accepta sous certaines conditions. Il indiqua un certain montant pour ses services et dit qu'il ne viendrait pas pour moins. Certains pensaient que, puisqu'il était difficile de trouver quelqu'un, nous devions accepter ces termes. Mais je dis au frère Burden, il ne serait pas bon d'employer ce médecin et de le payer autant, alors que d'autres qui travaillent tout aussi fidèlement reçoivent moins. Ceci n'est pas juste, et le Seigneur m'a indiqué qu'il n'approuvait pas cette discrimination. Le Seigneur appelle à l'abnégation dans son service, et cette obligation s'applique aussi bien aux médecins qu'aux pasteurs. Nous avons devant nous une énorme tâche qui exige des ressources et devons appeler des jeunes gens à travailler comme pasteurs et médecins, non pas pour les salaires les plus élevés, mais à cause des grands besoins de l'œuvre de Dieu. Il ne plaît pas au Seigneur de voir cet état d'esprit avide de rémunération conséquente. Nous avons besoin de médecins et de pasteurs dont le cœur est consacré à Dieu et qui recevront leurs ordres de marche du plus grand médecin missionnaire qui n'ait jamais vécu sur cette terre. Qu'il contemple sa vie d'abnégation et se sacrifie avec joie afin que plus d'ouvriers s'engagent à répandre la semence de l'Évangile. Si tous travaillent dans cet esprit, on demandera moins pour les salaires. Certains ont failli sur ce point. Dieu leur a donné la capacité de rendre un service acceptable, mais ils n'ont pas appris les leçons d'économie, d'abnégation et de marche humble avec le Seigneur. On leur a accordé un salaire plus élevé, et ils sont devenus extravagants dans l'usage de ces moyens, ont perdu leur influence pour le bien qu'ils auraient pu faire, et la main généreuse de Dieu s'est éloignée d'eux. Attention à ne pas placer trop de confiance en ceux qui exigent un salaire élevé, avant d'être engagé dans l'œuvre de Dieu. Je vous écris ceci comme un avertissement. L'extravagance et l'influence. Parmi nos pasteurs, nos médecins, nos enseignants et nos colporteurs, il y a le besoin d'un abandon total de l'esprit, du cœur et de l'âme à Dieu. Un travail est attribué à chacun. Ne suivons pas les plans imprudents et immatures du docteur Intel. En agissant à la lumière de ses propres conseils et en suivant ses propres idées et plans, il tend à engager des dépenses déraisonnées et à entreprendre des projets qui absorberont, mais ne produiront pas. Avant d'investir des moyens, ils devraient calculer prudemment le coût. Arrivé à une vraie piété plus profonde, il ne dépensera plus l'argent si librement, dans un effort de paraître grand aux yeux des hommes influents du monde. Que personne ne s'imagine que le fait de se vanter donnera de l'influence aux ouvriers de Dieu. Ni les vêtements, ni les maisons coûteuses, ni le style de vie à la mode ne donneront du caractère à l'œuvre. Par contre, un esprit doux et serein est de grande valeur aux yeux de Dieu. La religion ne rend pas un homme vulgaire et impoli. Le vrai croyant, se rendant compte de sa propre faiblesse, se gardera sur chaque point et placera toute sa confiance en Dieu. La véritable piété chrétienne ne peut être imposée, elle découle naturellement du cœur sincère. Dieu a besoin d'hommes minutieux, pratiques et qui prient. Des signes extérieurs d'ostentation n'élèvent pas les hommes et les femmes aux yeux des gens sensés. Il n'est pas bon qu'un médecin étale ses richesses et qu'il fasse payer ensuite un prix exorbitant pour réaliser une simple opération. Dieu considère ces choses sous leur véritable lumière. Pas d'ostentation, ni de mode. Que nos médecins étudient la vie du grand médecin qui allait à pied de lieu en lieu. Les foules qui le suivaient ne réalisaient pas qu'elles écoutaient le plus grand médecin qui ait jamais répondu aux besoins de l'humanité. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Ceux qui acceptent de suivre le Rédempteur désintéressé seront prêts en toute occasion, favorable ou non. Nous espérons sincèrement que vous ne gâterez pas vos médecins avec des salaires élevés et prions pour cela. Que le travail se fasse de manière à ce que beaucoup aient l'occasion de devenir des médecins pour les corps et les âmes. Deux entretiens importants concernant le salaire des médecins. Premier entretien. Présent. Madame Ellen G. White, Les Anciens, Francis M. Berg, George W. Reeser, W. M. Adams, G. H. Behrens, C. L. Taggart, A. G. Christiansen et William Clarence White, ainsi que Clarence Krager Chrysler. Après les présentations et les salutations, le pasteur White dit pour résumer « Toute la journée d'hier, nous avons considéré les intérêts de nos différentes écoles de l'Union du Pacifique. Dans ces écoles situées à Anguin, Lodi, Fernando, Armona et Loma Linda, il y a entre 6 et 700 étudiants qui étudient. Nous avons été encouragés en considérant ensemble ces écoles. Aujourd'hui, nous devons analyser les problèmes du sanatorium, en particulier la question de la rémunération des médecins et des chirurgiens. Dans notre sanatorium de Sainte-Hélène, nous avons un médecin qui craint Dieu, qui a gagné la confiance de tous ses associés, un homme que Dieu a grandement béni dans son ministère auprès des malades. Il veut continuer et tous veulent qu'il reste. Il sait que ce serait une bonne chose qu'il continue si les frères pouvaient lui accorder un salaire d'environ le double de ce que perçoivent les autres ouvriers. Il aime donner généreusement et désire avoir plus de fonds pour vivre et pour son propre usage. Nous sommes très perplexes et aimerions savoir si vous avez quelques lumières à ce sujet. Sir White, si on lui accordons bien plus qu'aux autres médecins, ceux-ci croiront qu'on ne les traite pas de façon équitable, à moins qu'on ne leur donne plus aussi. Nous devons agir avec prudence, être compréhensifs et ne pas permettre que les salaires augmentent au point que beaucoup soient tentés. Il faudrait peut-être même diminuer les salaires des médecins plutôt que de les augmenter, car la tâche est immense. À moins que vous ne receviez de lumière claire du Seigneur, il n'est pas conseillé de payer un homme beaucoup plus que les autres qui font un travail semblable. Autrement, les autres penseront qu'il serait parfaitement approprié de s'attendre à une rémunération similaire. Nous devons considérer les choses sous tous leurs angles, et il est inutile de penser que nous puissions offrir à un ouvrier qui réussit un salaire plus élevé simplement parce qu'il l'exige. Au lieu de cela, nous devons considérer ce que nous pouvons nous permettre maintenant, alors que des champs sur lesquels nous allons désormais avoir à dépenser beaucoup plus de moyens que nous n'en avons dépensé jusqu'ici sont en train de s'ouvrir. ce sont les questions qui mettront la foi de notre peuple à l'épreuve. William Clarence White, « Mère, ceci met vraiment notre foi à l'épreuve, surtout quand un groupe d'ouvriers a travaillé avec un homme au point d'avoir appris à l'aimer, à l'admirer et à croire que son travail est meilleur que celui de n'importe quel autre homme. Il est donc naturel pour eux de penser qu'il serait mauvais pour le frère de lui refuser ce qu'il pourrait employer à son avantage. Ils pensent, que sont 1 000 $ ou 1 500 de plus quand la vie est en jeu? Ils disent, nous avons ici et là un cas qu'il vient de résoudre et voici un autre dont il a pu sauver la vie. Et ils considèrent qu'il serait terriblement mesquin de notre part de ne pas satisfaire à ses exigences. Ils disent, personne ne doit travailler et souffrir autant que le chirurgien. Pensez aux heures de dur labeur, d'inquiétude, d'angoisse mentale qu'ils doivent supporter quand une vie précieuse ne tient qu'à une file. Mais d'un autre côté, en considérant cette question, nous devons nous souvenir que d'autres institutions sont influencées par nos actes. Nous voyons un pauvre sanatorium en lutte, situé dans un endroit magnifique, en position d'étendre son affaire et avec toutes les raisons de générer du profit si seulement il pouvait avoir un médecin brillant. Il pourrait avoir un bon médecin si on leur disait de payer seulement 300 ou 500 $ de plus que le salaire moyen recommandé. Ils disent « Si vous nous laissez payer seulement quelques centaines de dollars de plus que ce que vous conseillez, nous pourrions gagner 5 000 $ pour couvrir cette dépense supplémentaire pour les salaires. » Et cela semble logique quand on le considère du point de vue financier. Sir White, harmonie. C'est dans l'harmonie que notre œuvre doit être menée, et certains traverseront des moments très difficiles. D'autres auront des périodes plus faciles, mais toutes ces choses devront être prises comme elles viendront, et les ouvriers devront se rappeler de ce que Jésus donna en venant dans notre monde. J'y pense souvent, et il me semble que nous pouvons effectuer un excellent travail si nous donnons un bon exemple. Mais si nous désirons ce que la plupart de nos frères ne peuvent recevoir, ceci fera du tort à notre influence. Un frère dit « Tel et tel frère reçoivent un certain salaire, je dois donc recevoir ce qui me revient. » Alors les salaires augmenteraient toujours plus. Le fait est que le salaire de quelques-uns devrait être toujours plus bas pour que nous puissions répondre aux exigences croissantes de la tâche qui se trouve devant nous, avertir le monde. Quand nous établirons une bonne relation avec Dieu, nous obtiendrons le succès partout où nous irons. Et c'est le succès que nous voulons, non pas l'argent, mais le vrai succès. Et Dieu nous l'accordera parce qu'il connaît notre esprit d'abnégation. Il connaît les sacrifices que nous faisons. Vous pensez peut-être que votre abnégation ne fait aucune différence, que vous devriez recevoir plus de considération, etc. Mais pour le Seigneur, elle fait une grande différence. Il m'a été montré plusieurs fois que quand des individus commencent à désirer des salaires toujours plus élevés, quelque chose leur arrive et qui les place en situation qui n'est plus avantageuse. Mais en acceptant un salaire qui démontre leur altruisme, le Seigneur voit leur abnégation et leur accorde le succès et la victoire. Ceci m'a été présenté encore et encore. Le Seigneur qui voit en secret récompensera publiquement chaque sacrifice que ses serviteurs éprouvés ont été disposés à faire. Dans le passé, quand cette question des salaires avait fait l'objet d'une analyse, j'avais dit à mes frères que le Seigneur sait tout de l'esprit qui nous pousse à l'action, et il peut changer les circonstances en notre faveur quand nous ne nous y attendons pas. En donnant un bon exemple, la bénédiction du Seigneur reposera sur nous. J'ai vu le Seigneur agir de bien des manières et en de nombreux endroits pour aider ceux qui justement voient ces questions sous la bonne perspective et donnent un exemple d'abnégation. Et mes frères, alors que vous travaillez avec ardeur, dans la prière, l'humilité et l'esprit du Christ, Dieu ouvrira les portes devant vous. On constatera votre altruisme. Parfois, quand mes frères venaient vers moi, cherchant conseil sur leur souhait de demander un salaire plus élevé, je leur disais qu'ils gagneraient un peu plus en demandant une rémunération plus importante, mais que la bénédiction de Dieu accompagnerait ceux qui font les choses différemment. Le Seigneur voit l'abnégation. Le Dieu d'Israël voit chaque motif, et quand vous traversez un moment difficile, les anges de Dieu sont là pour vous aider et vous donner victoire sur victoire. J'ai été très clair dans mon conseil à mes frères de ne pas exiger de salaires élevés, puisque là n'est pas le mobile qui nous pousse à employer toute notre énergie dans l'œuvre du salut des âmes. nous ne devons pas permettre à la question des salaires de s'interposer dans notre réponse à l'appel du devoir, partout où nos services sont nécessaires. Le Seigneur peut susciter des occasions de manière à rattacher à nos efforts une bénédiction qui dépassera de loin n'importe quelle compensation que nous puissions ou pas percevoir. Et il donnera à ses serviteurs de dire des paroles qui auront les plus grands effets sur les âmes qui périssent. Dans l'avenir, notre œuvre devra être accomplie avec une abnégation et un esprit de sacrifice encore plus grand que dans le passé. Dieu désire que nous lui confions nos âmes afin qu'il agisse à travers nous de diverses manières. Ces questions m'affectent de grande manière. Mes frères, agissons avec douceur et humilité et montrons à nos associés un exemple de sacrifice. Si par la foi nous faisons notre part, le Seigneur ouvrira devant nous des chemins encore insoupçonnés. Si quelqu'un propose quelque chose qui ne soit pas en accord avec les principes d'abnégation sur lesquels notre œuvre est basée, souvenons-nous que la main de Dieu peut balayer en un instant tous les bénéfices apparents, parce qu'elle n'était pas à la gloire de son nom. Deuxième entretien. Ancien Elmer Ellsworth Andros. J'ai pensé vous demander conseil, Sir White, et plus de détails sur la question que nous avons considérée l'autre jour, la question du salaire des employés, surtout des médecins, dans nos institutions. Si vous aviez quelques conseils supplémentaires pour nous concernant la rémunération que nos médecins devraient percevoir, nous serions heureux de vous écouter. Sir White, si nos médecins commencent à exiger des salaires de plus en plus élevés, le Seigneur ne les fera pas prospérer. Ceci m'a été présenté pendant la nuit à plusieurs reprises. Le Seigneur désire que nous adoptions une position où nous puissions recourir à lui pour recevoir des instructions, que nous nous reposions sur lui pour sa la lumière et que nous continuions à mieux le connaître, lui qui, comme nous le savons, est la vie et est mal. Ancien Andros. La question qui se présente à nous est « Quel salaire devrions-nous payer aux médecins ?» Vous savez que certains pensent que nous ne les traitons pas généreusement, qu'ils devraient recevoir une rémunération bien plus importante que celle qu'ils ont, plus importante que celle des pasteurs et des autres ouvriers de notre œuvre. Ils insistent qu'ils peuvent gagner beaucoup plus dans une clinique du monde, bien plus que ce que ne pourrait gagner le pasteur. Sir White. Oui, et ils devront continuellement faire face à cette tentation. Mais en ce qui concerne le fait d'encourager nos médecins à fixer leur propre salaire, nous devons être très prudents. Je regrette de ne pas pouvoir maintenant expliquer complètement ce qui m'a été montré pendant la nuit. J'espère à l'avenir pouvoir en dire davantage sur cette question, mais je puis dire maintenant que je dois continuer à témoigner contre l'idée selon laquelle des hommes ont le droit de déterminer leur propre salaire. Si on permet à un homme de commencer sur cette lancée, Satan l'aidera de façon extraordinaire. Nos frères qui occupent des postes à responsabilité doivent arriver à un accord sur ce sujet et ne considérer aucun homme indispensable au point de lui accorder tout ce qu'il juge digne de son service. Personne ne devrait entretenir l'idée selon laquelle il est exalté au-dessus de ses frères qui rendent un service aussi fidèlement que lui. Il faut que nous ayons une juste conception des salaires si nous désirons que le Seigneur continue à faire prospérer notre travail. Ceux qui persistent à suivre leur propre voie découvriront que, contrairement aux conseils de leurs frères, ils se trouvent sur un terrain dangereux et finiront pas échoués. Depuis ses débuts, notre œuvre a été menée selon des principes d'abnégation. À plusieurs reprises, nous avons prouvé la valeur de ces principes. Et quand des hommes ont essayé de se détourner de cette voie d'abnégation, ils n'ont pas prospéré. Le Seigneur ne les a pas bénis dans ce domaine. Soyons fidèles à Dieu sur ce point, ancien Andros. Pasteur Andros. Certains frères croient qu'un salaire bien supérieur à celui que perçoivent les pasteurs est, pour eux, un très bas salaire, que ce n'est rien en comparaison à ce qu'ils pourraient recevoir dans le monde. Ils pensent donc qu'il ne s'agit pas du tout d'un salaire important. Ils disent, par exemple, que 40 ou 50 dollars à la semaine est très peu pour un médecin et un chirurgien compétent, que c'est peut-être élevé pour un pasteur, mais pas pour eux, puisque leur profession peut générer des revenus bien supérieurs. C'est là leur raisonnement.
Sir White.
Oui, mais je veux dire avec détermination que nous ne pouvons garder tout ouvrier qui a l'habitude de fixer son propre salaire, et, s'il est dirigé par Dieu, il cessera de faire cela. Ces questions ont souvent surgi dans le passé, et, si j'en avais le temps et la force, je pourrais trouver dans mes écrits beaucoup de références directes sur ce sujet. Et la conséquence d'une telle pratique a toujours été contraire à notre cause, et non pas en faveur de son progrès. Plusieurs situations m'ont montré que l'ennemi de notre œuvre serait content d'introduire un règlement concernant les salaires qui nous mettrait en situation de conflit. Dieu ne participe à aucun accord permettant à quelqu'un de déterminer la somme qu'il devrait percevoir. Quand quelqu'un dit qu'il ne peut travailler dans une de nos institutions qu'à moins de recevoir ceci ou cela, les autres se sentiront alors libres de formuler des demandes similaires. Rien ne nous servira d'adopter un règlement qui ouvrirait la voie à de tels résultats. Quand ce sujet a été discuté dans le passé, plusieurs fois, le Seigneur a envoyé une lumière claire selon laquelle on ne devrait permettre à aucun homme de tracer le chemin exact qu'il doit suivre. Car permettre cela conduirait bientôt l'œuvre à un état de confusion. Dieu nous aidera si nous marchons à la lueur de ses conseils. Nous entrons là où l'ennemi utilisera contre notre œuvre tout avantage qui soit en son pouvoir. Nous devons tous dépendre entièrement de notre Dieu et occuper une position où nous pouvons continuer à connaître le Seigneur, sachant que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Dans le passé, quand cette question des salaires a été considérée, le Seigneur est intervenu plusieurs fois, et les hommes ont été protégés des pièges de l'ennemi. Quand ceux-ci ont présenté leurs besoins urgents, nous avons abordé fidèlement les principes sous-jacents aux récompenses dans le service de Dieu, et nos efforts ont été couronnés de bénédictions. Nos frères ont vu quel serait le résultat en peu de temps pour la cause si nous avions accédé à leurs demandes, et ont alors sagement choisi une meilleure voie. Aperçu d'un danger menaçant. Je suis à la fois alarmé par les perspectives du sanatorium et celles de la maison d'édition à Battle Creek, que par celles de nos institutions en général. Un esprit s'est manifesté, s'est peu à peu renforcé dans les institutions, et son caractère est complètement différent de celui que le Seigneur a révélé dans sa parole et qui devrait distinguer les médecins et ouvriers en lien avec nos institutions de santé et l'œuvre des publications. On nourrit l'idée selon laquelle les médecins du sanatorium et les responsables de la maison d'édition n'ont pas l'obligation d'être contrôlés par les principes chrétiens d'abnégation et de sacrifice personnel. Mais cette idée trouve son origine dans les conciles de Satan. Quand les médecins pensent davantage à leur salaire qu'à l'œuvre de l'institution, ils démontrent qu'on ne peut compter sur eux en tant que serviteurs du Christ désintéressés et craignant l'éternel, altruistes et fidèles dans l'œuvre du Maître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le ciel fut gagné pour les êtres humains à un prix infini, et personne ne franchira les portes du bonheur sans avoir d'abord démontré par l'abnégation et le sacrifice personnel la qualité et l'authenticité de sa vie pour le Seigneur et pour l'humanité souffrante. Dieu exigera de tous un rendement proportionnel à la valeur qu'ils auront accordée à leur personne et à leur service, car ils seront jugés selon leurs œuvres et selon rien de moins que la norme qu'ils auront eux-mêmes établie. S'ils ont considéré que leur talent avait une grande valeur et ont eu en estime leur capacité, on leur demandera de rendre un service en harmonie avec leur propre évaluation et exigence. Si peu connaissent réellement le Père et son Fils Jésus-Christ, s'ils étaient imprégnés par l'Esprit du Christ, ils feraient les œuvres du Christ. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Philippiens 2, verset 5. Celui qui juge avec justice a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Dieu a confié aux hommes tous les talents, les petits et les grands, pour être employés à son service. Quand ils demandent des salaires exorbitants pour leur service, Dieu, le juge de toute la terre, les tiendra à la mesure de leur propre surestimation et exigera d'eux dans la même mesure que celle qu'ils se seront attribuées à eux-mêmes. Alors qu'ils mesurent leur valeur d'un point de vue monétaire, Dieu les jugera selon leurs œuvres, comparant leur service à la valeur qu'ils se seront attribuées. À moins de se convertir, toute personne surévaluant ainsi ses capacités n'entrera jamais au ciel, car jamais son influence personnelle au service du Seigneur n'égalera l'échelle de sa propre valeur ou de celle de ses exigences pour ses services rendus aux autres. Enrayer l'œuvre de Dieu. Celui qui est égoïste et cupide avide de chaque dollar qu'il peut obtenir de nos institutions pour ses services, est un obstacle pour l'œuvre de Dieu. En vérité, il reçoit déjà sa rétribution. On ne peut le considérer comme étant digne que lui soit confiée la récompense éternelle du ciel dans les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui renoncent au moi, qui portent la croix et le suivent. L'éligibilité des hommes pour entrer dans l'héritage acheté par le sang est mise à l'épreuve durant cette vie de probation. Ceux qui ont l'esprit d'abnégation manifesté par le Christ, qui s'est donné lui-même pour le salut de l'homme déchu, sont ceux qui boiront la coupe, qui seront baptisés par le baptême et qui partageront la gloire du Rédempteur. Ceux qui démontrent que l'amour de Jésus contrôle leur esprit et les pousse à servir seront jugés dignes d'appartenir à la famille d'en haut. Nous devons tous être mis à l'épreuve ici-bas, en cette vie, pour montrer qu'une fois admis au ciel, nous ne réitérerons pas la conduite que Satan y a manifestée. Mais, si le caractère que nous développons pendant notre période de probation est conforme au modèle divin, nous serons qualifiés pour recevoir cette bienvenue. Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Mais, d'un autre côté, si ces hommes désirent être très estimés parmi les autres, s'ils recherchent les positions les plus élevées et exigent le salaire le plus important qu'ils puissent obtenir en cette vie, ils garderont ce même caractère dans la vie future. Tout le ciel les jugera impropres au royaume, disqualifiés pour tout poste à responsabilité dans la grande œuvre de Dieu, dans les parvis célestes. Nos institutions sont des instruments établis par Dieu, et les principes d'équité, de justice et de droiture doivent y être fidèlement maintenus. L'œuvre dans laquelle nous sommes engagés doit être accomplie par des hommes ordonnés par Dieu, comme l'était le Christ, et qui iront de l'avant avec un esprit de sacrifice pour le salut d'un monde perdu. Tel est l'esprit qui doit caractériser l'œuvre missionnaire médicale partout et à n'importe quel endroit. Unité parmi les ouvriers médicaux. Quand le Seigneur me montra le grand manque d'unité parmi les praticiens, je me sentis accablé. Ils agissent comme si la prière du Christ ne les concernait pas et ne recherchent pas l'unité. Les médecins devraient tous collaborer dans l'amour et l'unité. Personne ne devrait être jaloux de leurs frères médecins ou les envier. Il ne faut pas permettre que les méthodes de pratique médicale génèrent de l'inimitié, de la méfiance et de la discorde. La réelle cause de la discorde est un esprit étroit et pharisaïque. Que les médecins démontrent qu'ils sont chrétiens en disant « Nous sommes frères, nous nous retrouverons bientôt dans les demeures célestes. Nous nous encouragerons les uns les autres dans le Seigneur. » Aucun bonus, ni prime flatteuse. Il faut que ceux qui travaillent pour la cause aient un cœur engagé dans l'œuvre de manière à ce qu'ils puissent servir, pas uniquement pour être payés, pas pour l'honneur, mais pour la gloire de Dieu, pour le salut des perdus. S'il est évident que le cœur de l'homme n'est pas engagé, n'offrez ni bonus, ni prime flatteuse pour obtenir les services de tout médecin. Offrez ce qui est raisonnable, ce qui correspond aux principes que le Seigneur a dévoilés dans l'établissement de nos institutions, mais pas plus. Satan, qui prétend être le prince de ce monde, se représente lui-même comme étant très riche, et il peut renchérir. Plus vous enchérissez, plus il surenchérira. Le monde est l'instrument que le diable utilise pour réaliser son travail. Vous saurez si quelqu'un est chrétien ou non, car les actes parlent plus fortes que les mots ou toute profession de foi. L'esprit qui caractérise l'action représente l'homme, et l'œuvre sera en accord avec le moule qu'il lui donne. Dieu fera en sorte que celui qui se lèvera pour et avec le Christ à la fin, dans le grand plan du salut, se manifeste par l'épreuve et les difficultés. Nous devons agir en tant que réformateurs dans chaque branche de notre œuvre. Alors, le Christ travaillera avec nous. L'exemple de Matthieu.
Jésus nous a rachetés à un prix infini, et aujourd'hui, il lève la main et nous appelle par nos noms, comme il le fit avec Matthieu alors qu'il s'asseyait au banc des collecteurs d'impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Matthieu 9, verset 9. Matthieu quitta tous ses gains, et suivit son Seigneur. Avant d'accepter de servir, il n'attendit ni ne stipula de somme pareille à celle qu'il gagnait dans son ancienne profession.
Mais, sans poser de questions, il se leva et suivit Jésus. Dans les difficultés et l'épreuve, beaucoup de chrétiens de profession doivent encore démontrer s'ils sont ou non soumis aux traits de la nature chamelle, ou s'ils ressemblent à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, verset 27. Une profession de christianisme ne suffit pas à faire de nous des chrétiens. Pas de salaires exorbitants. Le médecin chrétien n'a pas le droit de suivre les coutumes du monde pour définir ses actions vers le patronage ou la louange des impies. Il ne devrait pas accepter de salaire exorbitant pour ses services professionnels, car la récompense attend celui qui est fidèle et sincère. Il n'a pas plus le droit de s'occuper des gens en exigeant une rémunération que le ministre de l'Évangile n'a le droit d'évaluer ses efforts selon une grande valeur monétaire, mais seulement selon la constance et la miséricorde, et la valeur de son travail. Ceux qui pensent trop à la rémunération de leur service révèlent qu'ils n'ont pas posé les fondements de leur vie spirituelle sur le sûr rocher, ou qu'ils ont perdu l'esprit de la vérité et qu'ils ont oublié qu'ils ont été purifiés du vieux levain par le sang précieux du Fils de Dieu. Ils sont devenus tellement dépourvus de discernement spirituel qu'ils placent ce qui est sacré et profane au même niveau. Leurs cœurs ne rendent pas honneur au Seigneur, et les principes de la religion ne sont pas tissés dans leur caractère. Ils accomplissent un service froid et formel qu'ils appellent religion. Mais le Seigneur n'est pas en eux, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Établir les critères de rémunération du médecin. On a longtemps ignoré la question si la profession médicale devait être contrôlée selon les principes chrétiens en ce qui concerne la compensation ou selon le critère égoïste du monde. Mais cette question ne peut être encore ignorée plus longtemps. La vie du médecin doit-elle donner l'exemple des principes purs et édifiants du christianisme? L'exercice de sa profession doit-il être soumis au règlement et à la supervision de l'Église? Doit-il pratiquer l'abnégation pour l'amour du Christ? Ou bien ne revient-il pas qu'aux hommes à l'activité plus humble de suivre les pas de Jésus, tandis que les commerçants, les avocats et autres professionnels sont libres de suivre leurs penchants égoïstes? Le monde doit-il ne pas trouver de représentants du christianisme dans la profession médicale et chez les hommes occupant des postes importants dans nos institutions? Le travail de la profession médicale fait appel à des individus qui aiment et craignent Dieu. Pendant longtemps, les gens ont été affligés de personnes inconverties qui ont agi indépendamment de l'Église, qui ont suivi leur propre jugement profane et qui, avec leur indépendance tout aussi profane, ont ainsi mis nos institutions en danger. Mais nos institutions n'ont pas à accepter des hommes et des femmes non consacrés, du fait qu'elles ne sachent pas quoi faire de mieux. Des médecins convertis se présenteront pour prendre leur place dans l'œuvre. À moins que les principes de la vérité divine ne contrôlent les médecins, comme cela n'a pas été le cas jusqu'à présent, Dieu sera déshonoré, des âmes seront perdues, et l'institution établie pour le bienfait des malades et des patients ne sera pas à la hauteur de l'Esprit de Dieu. L'exemple du Christ. Jésus peut être représenté dans le caractère et les actions de tout médecin, et tous ceux qui affirment être chrétiens devraient travailler comme le Sauveur a travaillé et recevoir une rémunération juste pour leur service, sans exiger plus, même s'ils pouvaient gagner davantage, en suivant les coutumes égoïstes du monde. Le pasteur pourrait tout autant exiger un salaire excessif pour rendre visite aux malades, consoler les découragés, offrir la paix et la joie aux opprimés, tout comme le médecin qui facture ses visites professionnelles de façon plus importante. En plus des connaissances spécifiques requises pour être de bons médecins, une formation quotidienne à l'école du Christ est nécessaire afin d'apprendre à travailler comme Jésus a travaillé, dans la pureté, l'altruisme et la sainteté devant Dieu. On sera ainsi apte à entrer à l'école supérieure des patriarches et prophètes pour s'unir aux rachetés et aux saints de toutes les époques. Celui qui veut être un médecin brillant doit être une personne à la mesure divine de Dieu et représenter le grand médecin. Il doit être un étudiant perpétuel, car aucun étudiant ne peut s'arrêter d'étudier, même s'il est diplômé dans le cursus plus renommé. Des motifs désintéressés. Que le médecin chrétien entre dans la chambre du malade et se dise « Dieu est ici, son regard est sur moi, il lit toutes mes pensées et observe toutes mes actions. » Je serai un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Je serai celui qui préservera l'honneur, l'honnêteté et la vérité. J'aurai la tendresse, la compassion, la miséricorde et la patience de Jésus. Je consolerai et bénirai cette personne qui souffre. Si Jésus veut travailler avec moi, je serai une aide pour ceux qui sont dans le besoin. Quel médecin peut être celui qui est un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ ? La lumière de la gloire de Dieu resplendira sur celui qui collabore ainsi avec le Seigneur. Le christianisme vivant dans les affaires commerciales, dans la pratique professionnelle, sera une puissance sur la terre. « Vous êtes la lumière du monde », a dit Jésus, Matthieu 5, verset 14, TOB. Le levain de la sanctification et de la sainteté doit être introduit dans la vie et le caractère. À notre maison d'édition, au sanatorium et à l'université, nous devrions veiller attentivement à ne pas agir selon des motifs égoïstes. Dans le meilleur des cas, la vie est brève et cette courte période de probation devrait être pure, vécue uniquement pour la gloire de Dieu. Ne tombons pas dans la duplicité, servant le Seigneur d'un côté, puis servant nos objectifs égoïstes dans nos plans et nos actions de l'autre. L'égoïsme et la négligence de l'esprit qui se manifestent dans les mots prononcés, les habitudes entretenues, les idées exposées, sèment tous la semence qui produira une moisson funeste. Évitez l'excès de travail. Quelle que soit votre occupation, médecin, commerçant, pasteur ou autre, vous n'avez pas le droit de vous imposer de fardeaux lourds et difficiles à porter au point de crouler sous de nombreuses et différentes tâches, de sentir que vous n'avez pas le temps de prier et de vous en excuser sous prétexte que vous avez tant à faire. Si c'est le cas, combien il est essentiel que vous ayez le Seigneur, le Dieu d'Israël, à vos côtés, afin de partager le joug avec celui qui était doux et humble de cœur. Le Christ dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Vous feriez bien de vous alarmer pour votre âme si vous permettez aux soucis de supplanter la vérité de Dieu dans votre cœur. Si vos collègues sont des gens mondains qui vous flattent en vous disant que vous êtes intelligent et que vous pourriez réaliser de grandes choses et que ces inepties impies vous plaisent, sachez que vous êtes en danger. Votre sens moral est perverti et vos perceptions émoussées. Vous avez quitté les eaux fraîches des neiges du Liban pour de l'eau qui provient d'une autre source. Riche aux yeux du ciel. Le succès selon le monde, même obtenu aux dépens de la vie spirituelle, est souvent perçu comme une bénédiction de la Providence. Mais c'est un désastre, c'est la mort. Mieux vaut encore être pauvre, porter la croix, être désintéressé, se sacrifier et voir ses rêves mondains brisés. Il vaut bien mieux être qualifié de pauvre par le monde plutôt que voir le mot « pauvre » écrit dans les livres du ciel. Être inscrit au ciel comme quelqu'un de riche en grâce spirituelle est un bien plus grand honneur que d'être assis avec les princes de ce monde et d'avoir renoncé au royaume de Dieu. Que l'ambition de ceux qui professent croire en la vérité présente soit écrite comme des hommes dont la vie est cachée avec le Christ en Dieu, des hommes qu'on ne peut acheter avec de l'or et qui, bien que tentés comme l'a été Moïse, estiment que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Hébreux 11, verset 26.
Dieu permet aux hommes de passer par le feu de la tentation afin qu'ils puissent voir si de l'alliage se trouve dans leur caractère, car ils ne peuvent recevoir leur héritage et la couronne éternelle à moins d'avoir été examinés et éprouvés par le Seigneur. Prenez le temps de veiller et de prier, de vous assurer que la présence de Jésus est avec vous et que vous pouvez lui demander conseil concernant l'œuvre qu'il a placée entre vos mains, tout comme Hénoc le fit dans les temps anciens. Vous qui occupez des postes à responsabilité, à quel point vous avez besoin de Jésus ? À quel point vous avez besoin de veiller et de prier pour être fervent en esprit et servir le Seigneur ? Allez-vous amasser des affaires pour votre âme et vous éloigner du Christ sous prétexte que vous n'avez pas le temps de communier avec lui ? Pourquoi violer la conscience ? Pourquoi mettre autant de confiance en vos propres forces limitées ? La tentation se présentera à chaque âme, et si vous cédez à une seule, d'autres plus fortes suivront et d'autres personnes seront influencées par votre exemple.
l'or n'est pas seulement l'étalon sur le marché monétaire, mais aussi une mesure du caractère parmi les hommes. Mais bien que le monde juge d'après ce critère, que le chrétien dise « Je n'ai pas besoin d'être riche, mais j'ai l'obligation d'être juste et de représenter mon Rédempteur. Je ne mettrai pas mon âme en danger en déclarant que je dois recevoir un certain revenu. J'ai décidé en mon cœur de ne pas donner à Satan l'occasion de triompher par le fait de mettre ma vie spirituelle en danger et de me mettre au service du péché. Je ne cultiverai et n'encouragerai ni l'égoïsme, ni la convoitise, car cela conduit le monde à la ruine. » Satan fut vaincu quand, avec ses tentations trompeuses, il s'approcha du Christ, offrant une grande récompense à celui qui discréditerait l'intégrité du Fils de Dieu. Il cherche maintenant, à travers le monde, à corrompre l'intégrité de ceux qui vaincront par la grâce du Christ. Mais que ceux qui se disent disciples de Jésus disent « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Matthieu 4, verset 10.